Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai deux auteurs avec moi. D'habitude, j'en ai qu'un, mais là, on a réussi à en faire rentrer deux. Deux auteurs d'un album absolument envoûtant, je dois dire, envoûtant par la qualité du dessin et la qualité du projet éditorial. Le titre, c'est Short Story, la véritable histoire du Dahlia noir. Les auteurs, c'est Run, qui est au scénario et à la maîtrise d'œuvre, je dirais, du projet éditorial, et Florent Modou, qui est au dessin de cet album. Avant de parler de votre travail, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous écoutent, Run par exemple?
Ouais, alors moi je suis Run, je suis auteur de bande dessinée, je suis notamment auteur de Mutafukaze et de Doggy Bags, là plus récemment de A Short Story avec Florent Modou. J'ai créé le label 619 en 2008. Je suis co-directeur du label 619 aujourd'hui avec Florent Modou, Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Genin.
Florent, et toi alors, qui es-tu?
Moi je suis Florent Modou, salut. J'ai fait de la BD depuis 2008, pour la création du label 619. Qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais de la figurine chez Rakam, on faisait des figurines en plomb, donc un lien avec l'histoire aussi. Et donc j'ai sorti des titres comme Freak Squeal, Funérailles, Massico. Et donc je collabore avec Run depuis un petit moment déjà. Ensemble, on a sorti Doggy Bags et Low Reader, donc des anthologies de pulp, bande dessinée. Et puis voilà, donc on sort complètement de notre on sort complètement de nos zones de confort avec Run sur un titre comme Short Story, quoi. Voilà, aujourd'hui.
Avant de parler de l'album, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est le label 619, quelle est son identité?
Vas-y, Flo.
Alors, l'identité du label 619, c'est vraiment un côté très pop culture, street art, street culture aussi. Il y a un côté custom culture aussi. Je ne saurais pas. Ça va chercher dans toutes les influences de la pop. On a une espèce de lien commun qui est Run. Hein. C'est vraiment l'ADN du label, s'il l'a créé. Et en même temps, il le dirige. Aujourd'hui, on le co-dirige, mais l'ADN, c'est vraiment l'identité de Run et de ses goûts éclectiques. Parce que là, voilà, par exemple, on a Mathieu Bablet qui fait plutôt de la science-fiction. Guillaume Saint-Genin qui va chercher dans un peu de tout, mais avec un style qui est très identifiable dans la pop américaine aujourd'hui. C'est très éclectique, ça va de la fantasy à la science-fiction, en passant toujours par ce côté très une relecture du présent, enfin une analyse de ce qui se passe aujourd'hui en termes de culture, tout ce qui est théorie du complot aussi, on embrasse ces questions-là pour essayer de voir, d'analyser comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux, comment on a vécu le Covid aussi, des trucs comme ça, quoi.
Donc, théorie du complot, ça me fait quasiment une très très bonne transition vers Short Story, parce que même si Short Story, c'est pas du tout un problème de complot, il y a quand même un mystère, il y a quand même quelque chose de non résolu. Run, comment tu as eu l'idée de t'intéresser à cette histoire, sachant qu'il y a déjà un film de Brian De Palma sur le thème du Dahlia noir? Il y a évidemment le polar de James Ellroy qui a mis tout ça au jour. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller plus loin que ces deux œuvres-là et de reprendre cette histoire?
Pour moi, ces deux œuvres-là n'ont pas grand-chose à voir avec la démarche qu'on a là sur A Short Story. C'est-à-dire que moi, à l'origine, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens qui connaissent l'histoire, j'étais fasciné par le caractère à la fois sordide et mystérieux de tout ça. Mais comme tout le monde aussi, j'étais baigné dans un imaginaire très Strass, paillettes, hollywoodien, tu vois, très glamour, tout simplement parce que c'est un petit peu la marque de qu'a imprimé Elroy sur l'affaire aussi, quoi. Et pour tout dire, au tout début, j'étais vraiment, je pensais aller dans cette voie-là, tout simplement. C'est-à-dire l'image d'Épinal, on va dire, d'Elizabeth qui descend à Union Station à Los Angeles pour faire une carrière d'actrice hollywoodienne. Moi, j'étais là-dedans au tout début. Et c'est progressivement, j'ai commencé à m'intéresser dans la perspective d'en faire quelque chose, et une BD notamment. Je m'y suis intéressé vraiment beaucoup plus, de manière beaucoup plus construite, en m'attachant aux faits, pour savoir, OK, qui est-elle, comment elle s'est retrouvée là, etc., etc. L'idée, c'était vraiment de braquer, j'ai envie de dire, la caméra sur elle et non pas sur son crime. Et à force de recherche, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de mystification autour de cette affaire et que pour démêler le vrai du faux, ça commençait à devenir très, très, très compliqué. Donc, pour ça, il y a des outils qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a encore 20 ans, qui sont, par exemple, Internet, ça existait il y a 20 ans, je veux dire, mais c'est là, aujourd'hui, on peut facilement aller visiter le site du FBI dans lequel il y a le dossier déclassifié. Alors, certes, il n'est pas complet, hein, il est loin d'être complet, même, il est plutôt lacunaire, mais en tout cas, il y a certains éléments sur lesquels on s'est appuyé pour commencer, pour initier l'enquête qui allait nous permettre de faire finalement a short story. Mais je t'avoue que moi, au début, je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler le projet et je ne pensais pas du tout découvrir ce qu'on a découvert, à savoir, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a quitté son Massachusetts natal pour aller faire carrière. Ben non, c'est quelqu'un qui a quitté son Massachusetts parce qu'elle avait des problèmes d'asthme et qui a suivi un homme jusqu'à Los Angeles.
Laurent, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots l'histoire de Short Story, l'histoire du Dahlia Noir ?
Pour résumer l'histoire de Short Story, c'est les derniers jours d'Elizabeth Short. Ces rencontres, ces aventures, en réalité, c'est là où c'est très déstabilisant. Et comme tu le disais, il y a un côté un peu étrange à cet album, c'est que on n'est pas dans la fiction déjà, on est dans la retranscription des derniers jours d'Elizabeth, qui sont inspirés de ce qui a été retrouvé et compilé dans les enquêtes du FBI. Là-dessus, du coup, on se base exclusivement en termes de bande dessinée sur les éléments qui sont prouvé par l'enquête. Donc là-dessus, on est on est très rigoureux. On cherche à reconstituer l'époque, chaque élément de l'époque, la société telle qu'elle était, pour qu'on puisse, en tant que lecteur, essayer de comprendre qui était Elizabeth Short, et puis de voir qui étaient ses fréquentations à ce moment-là.
Oui, on peut dire que c'est une apprentie starlet, donc elle quitte son Massachusetts pour des raisons de santé, ça aussi je l'ai découvert dans l'album, elle veut faire du cinéma, donc elle va dans les endroits où on rencontre les gens qui font du cinéma.
Sa boussole, c'est en vérité, sa boussole, c'est pas le cinéma. Encore une fois, sa boussole, si elle va à Los Angeles, c'est pas pour faire carrière, c'est pour suivre un homme qui s'appelle Gordon Fickling. Et ensuite, sur place, elle se retrouve désœuvrée et elle se dit, puisque j'ai été Miss Camp Cutie, donc qui est une espèce de titre. Elle a été nommée plus belle femme d'un camp militaire sur une année. Et naïvement, elle s'est dit, puisque entre guillemets, on reconnaît ma beauté, j'ai peut-être une chance de me faire remarquer par peut-être un producteur hollywoodien ou peut-être par des gens dans le showbiz, mais à aucun moment elle ne prend ce truc-là vraiment au sérieux, dans le sens où elle ne prend pas de cours de chant ni de comédie. Et puis, elle se retrouve assez vite dans des affaires un peu louches où elle se fait prendre en photo, où elle fait des photos érotiques avec un certain George Price. C'est une photo qu'on a retrouvée d'ailleurs sur un site d'experts qui s'appelle les Dalys. C'est des experts américains qui sont passionnés par l'affaire. où on reconnaît bien que c'est elle, de profil, elle a un profil très particulier. Et voilà, et en fait, je pense que naïvement, elle s'imagine peut-être pouvoir faire des contacts dans cet univers-là, mais honnêtement, je pense pas qu'elle croit sérieusement qu'elle va faire carrière à Hollywood.
Alors, pour compléter ce que dit Run, en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'album, en plus de cette partie bande dessinée, il y a toute une enquête. Et le résultat de cette enquête, le résultat de la compilation de toutes les informations que Run, le scénariste, a récoltées pendant 2 ans et pendant les 10 années précédentes, parce que, en fait, c'est une affaire, enfin, il vous le dit pas comme ça, mais en fait, ça fait 10 ans qu'il m'en parle. C'est compilé et présenté de manière très digeste, très accessible dans un livret d'enquête qui permet de se faire une idée de la vie de l'époque et des hommes qui ont gravité autour d'elle et des femmes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes. Et du coup, c'est plus qu'une bande dessinée, peut-être c'est aussi un livre enquête.
Ouais, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait 3 narrations différentes qui, toutes réunies tout ensemble, faisaient la narration que vous avez imaginée. Il y a une chronologie assez fine. Là, je disais ça hier à Florence, c'est écrit un peu petit, mais on suit vraiment pas à pas. Il y a beaucoup d'événements qui sont cités, il y a beaucoup de notes qui éclairent des éléments de la vie d'Elizabeth Short. Il y a aussi un autre déroulé qui sont là des événements de la vie d'Elizabeth avec des personnages, avec des détails sur les gens qu'elle rencontre, sur ce qu'elle fait, sur ses motivations. Il y a aussi beaucoup de lettres. Ça, j'ai été étonné du nombre de lettres que tu vas retrouver, qu'elle a écrit ou qu'elle a reçu. Et puis, il y a évidemment la bande dessinée. Comment vous avez réussi à tricoter ça avec, pour que tout soit aussi bien équilibré?
Ouais, c'est un pari, honnêtement. Je suis ravi d'entendre que tu trouves que ça fonctionne, mais au moment de le faire, si tu veux, c'est du feeling. Hein, c'est-à-dire que nous, à aucun moment, on est tombé sur une chronologie telle qu'elle est dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des petits éléments. Moi, j'avais un dossier où à chaque fois que je tombais sur une nouvelle information, j'allais la remettre dans la timeline, etc., etc. Donc, c'est une espèce d'immense puzzle auquel il faut donner forme. Donc, avec Florent, assez vite, on s'est dit qu'on allait mettre, entre guillemets, en image les choses qui nous paraissaient comme étant les plus solides, à savoir les procès-verbaux de la police et les témoignages recueillis à l'époque. C'est pour ça qu'on est parti sur la première déposition de Peter Vetcher la première reconstitution. Pour la seconde reconstitution, c'est les témoignages à la fois de Anne Todt, de Mark Hansen et des filles du Chancellor Hotel qui ont permis de reconstituer la deuxième partie. Et pour la troisième partie, c'est l'interrogatoire de Robert Manley, le dernier gars à l'avoir vu officiellement et à l'avoir déposé à ce fameux hôtel Biltmore, où elle s'enfonce dans la nuit le 9 janvier 1946, avant qu'on retrouve le 47, pardon, avant qu'on retrouve son cadavre le 15 janvier. Donc voilà, et tout le reste, et ben les lettres, etc. Et encore les lettres, il y en a encore beaucoup plus qu'on n'a pas publiées, hein, qui sont tout aussi intéressantes. Mais là, pour le coup, les lettres qui ont été choisies, c'était celles qui montraient le plus à la fois son désespoir et d'une certaine manière les arrangements qu'elle faisait avec la réalité. Ça nous paraissait assez intéressant dans sa psyché et aussi dans le déroulé des événements, quoi.
Oui, parce que le récit écrit, le récit vraiment écrit, et moi j'ai trouvé un récit très sombre, vraiment très assez triste, parce qu'on se rend compte qu'elle a un petit problème avec le réel, en fait, cette Elizabeth Short, elle n'est pas forcément toujours à l'endroit où mentalement en tout cas, où les choses se passent, elle s'invente beaucoup de choses et elle ment à beaucoup de monde, elle s'invente des histoires d'amour, enfin c'est assez troublant. Et d'un autre côté, le dessin de Florent, qui raconte là aussi des choses difficiles, est extrêmement lumineux, extrêmement ensoleillé. Ça, j'ai trouvé que ça participait énormément du charme et de l'intérêt de votre BD.
C'est ce qu'on voulait.
En fait, là-dessus, il y a Run a il n'est pas que scénariste. Faut savoir que Ron a aussi réalisé, co-réalisé le film Muta Fucas. Donc là-dessus, en termes de direction artistique, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait tirer le meilleur parti. Et il m'a beaucoup dirigé justement. Enfin, déjà, on en parlait ensemble parce qu'on savait qu'on voulait le faire ensemble, ce Dahlia Noir. Moi, ma spécialité, c'est de faire vivre et de faire bouger des personnages féminins et de les rendre justement lumineux. Tu parlais de luminosité, tu les parlais de vie. Nous, on voulait donner de la vie à Elizabeth Short dans ce dans cet album et surtout faire comprendre pourquoi aussi elle avait fui peut-être ce Massachusetts et pour se diriger vers un endroit où le soleil brille. Et la direction artistique là-dessus, ça a été très clair. Hein. Il a fallu rendre, il a fallu redonner de la lumière à tous les cieux qui avaient, qui apparaissaient, et gommer beaucoup de gris parce qu'en fait j'avais tendance à charger les gris. Ça se voit sur les versions noir et blanc. Et ça c'est super intéressant parce qu'effectivement je suis content que tu sois sensible. Je pense que les lecteurs ils seront sensibles aussi. Il y a une véritable volonté artistique de représenter la vie et pas la mort.
Oui, et toute cette affaire est toujours empreinte d'une esthétique polar, noir, tu sais, par-dessus, avec le col relevé, chapeau, voire pluie et, tu vois, et petite rue enfumée. Nous, l'idée, c'était justement de montrer l'inverse de ça, c'est-à-dire que ce qui a attiré Elizabeth à Los Angeles, c'est pas du tout le caractère glauque et corrompu de la ville, hein. Au contraire, c'est il fait beau, tout se fait là-bas. Il y a la ville est pleine de militaires et elle a quand même une petite acquaintance avec les beaux militaires. Donc c'est ce qu'on voulait montrer aussi au travers de la mise en scène en fait.
Et en plus c'est Noël.
Et en plus c'est Noël.
En plus ça se passe à la fin de l'année, les décorations de Noël sont encore là.
En tout cas pour la troisième partie. Pour la troisième partie.
Voilà. Mais au-delà de ça, il y a un travail de reconstitution. Là, je m'adresse à Florent pour le dessin, qui est franchement exceptionnel. Parce que les intérieurs des hôtels, les immeubles, les rues, il y a beaucoup de documents, des cartes postales d'époque, il y a des photos, et on se rend compte qu'on évidemment, le dessin ne singe pas les cartes postales, mais il y a une vraie continuité entre les documents historiques et le dessin que tu as fait. On passe de l'un à l'autre, on a l'impression de rentrer dans un univers et dans un autre, sans aucun souci. Ça se passe avec beaucoup de fluidité.
C'est grâce à Run qui m'a largement abreuvé de références. Ensuite, moi-même, j'ai tendance à aller faire mes petites recherches. Par exemple, le cinéma, l'Aztec Theater, déjà, il faut se méfier. Il y a deux Aztec Theater à San Diego. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un bâtiment à côté, je n'arrivais pas à le dessiner. Du coup, je fais des recherches et je me rends compte que l'Aztec Theater, ce n'est pas, un cinéma en amphithéâtre. C'est un cinéma avec un sol plat. Et tu vois, ces genres de détails, c'est la curiosité, la rigueur qui font qu'effectivement, avec Run, on a envie que ce soit au plus proche. De toute façon, quand tu dessines une histoire qui se passe et que c'est une enquête en réalité, en fait, chaque élément graphique qui apparaît au sein de l'histoire, ça devient un élément d'enquête. Donc, à partir de là, on s'efforce. Alors, ça peut nous arriver de faire des erreurs, mais on s'efforce de faire en sorte que tout soit le plus immersif possible. Et chaque élément devient important. Par exemple, les rétroviseurs de voitures, à l'époque, on se rend compte qu'ils ne sont pas automatiques. Je dis à Ron, tiens, c'est bizarre, dans les pubs de voitures, ils n'ont pas de rétroviseur. Donc il me dit, écoute, on va regarder des vidéos. Donc il y a 20 minutes de vidéos de voitures qui roulent dans la rue, à l'époque, avec des passants. Et on se rend compte aussi, dans ces vidéos, qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent les transports en commun. Là, c'est aussi un effet sociétal intéressant. C'est qu'aujourd'hui, dans les rues de Los Angeles, il n'y a pas tant de passants que ça, il y a plus des SDF. Et ça, c'est parce qu'on a aussi été sur place à Los Angeles pour s'imprégner de des lieux. Quoi.
Alors, tout à l'heure, je parlais de trois narrations différentes, mais en fait, il y en a une quatrième qui est constituée par les documents d'époque. Donc, il y a des cartes postales, mais il y a aussi beaucoup de coupures de journaux. Il y a des pages de journaux qui ont été reproduites. Là encore, c'est un élément qui, sans apporter trop de dramatisation, nous plonge vraiment au cœur de l'affaire telle qu'elle a été vue à l'époque par les gens les journalistes en tout cas et les photographes de l'époque. C'est encore une couche de plus, je trouve, dans l'intérêt de ce bouquin.
L'idée, c'était en fait de mettre sur la table tous les éléments qu'on avait réussi à avoir, en fait. Alors, parfois plus ou moins difficilement. C'est vrai que parfois les gens ont l'impression en lisant le bouquin que bon, bah, on a repris une chronologie qui était probablement préexistante et puis on a juste, tu vois, on a juste réécrit. En fait, non. Encore une fois, comme je disais au début, c'était un puzzle extraordinaire. Ne serait-ce que trouver le nom de l'agence dans laquelle Carl Balsiger l'a rencontré, eh ben ça, c'est l'objet de, pareil, d'une recherche et de déduction, etc. etc. Donc voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose de super important et intéressant. Et aussi, nous, ce qu'on voulait, c'était absolument... on s'est dit qu'à force, avec la bande dessinée, la reconstitution en images, etc., les gens pouvaient s'imaginer peut-être que c'était de la fiction. Et le fait de raccrocher les wagons à la fin avec des coupures de journaux, on vient leur rappeler que tout ceci est vraiment réel. Tout ceci s'est produit. Et voilà les journaux tels qu'ils en parlaient à l'époque. Donc, on a fait une sélection des pages de journaux qui nous paraissaient les plus importantes. Notamment, au début, quand je recherchais ces journaux sur un site qui s'appelle newspaper.com, qui est un site d'archivage de journaux où il y a des dizaines, des centaines de milliers de pages de journaux anglo-saxons, je me suis aperçu que, bah oui, au début, ça sert à rien de faire des recherches avec Elizabeth Short ou Dahlia Noir avant qu'on ait identifié qui était la victime. Donc, il a fallu passer par plein de stratégies pour tomber sur les pages de journaux qui étaient où la victime n'avait pas encore été identifiée. Donc, tout ça, c'est constitutif du travail d'enquête, entre guillemets, et je trouvais que c'était très intéressant de les mettre à la fin, ouais.
Mais comme c'est illustré, bon, c'est aussi la qualité de l'époque, hein, c'est une encre et une impression très charbonneuse, pas forcément très nette. Là aussi, on est, je trouve, dans la continuité de la bande dessinée, comme si ce dessin, comme les cartes postales, bah, se raccrochait finalement au dessin de Florent.
C'est notre marque de fabrique, au label 619. Une de nos marques de fabrique, c'est quand même l'attention portée à la fabrication et à la cohérence. Donc ça, c'est vrai qu'avec Florent, on était raccord à fond là-dessus, quoi.
Ouais, c'est ce que j'allais parler de l'objet, parce que c'est non seulement une belle bande dessinée, mais c'est aussi un bel objet. La couverture est somptueuse. Quand on la reçoit, on n'a qu'une envie, c'est de l'ouvrir très vite. Le dos étoilé, il y a des papiers différents suivant les documents. Il y a des mises en page avec que des cartes postales ou que des petites photos de journaux. L'objet est assez envoûtant.
Oh, merci.
Oui.
Moi, je m'en lasse
pas. Bah, on peut rebondir dessus, c'est qu'en fait, ça fait des années que Run dirige des recueils d'histoires courtes dans Doggy Bags et Low Reader. Et en fait, c'est une tradition qu'on a dedans de remplir à fond ces albums de visuels, de fausses pubs d'ailleurs. D'habitude, on fait des fausses pubs, on fait des faux visuels. Et là, pour une fois, bah, c'était l'inverse. On se retrouvait avec plus de matériaux qui venaient des vraies publicités des années 50. Année, par exemple, plutôt 45-46 pour l'époque. Et on se retrouvait avec pléthore de visuels intéressants. Et d'ailleurs, c'est ça que, pour faire le lien, c'est vrai qu'il y a un lien entre le dessin et la photo. C'est que les premières images d'Elizabeth Short étaient des portraits robots parce que, en fait, on savait pas qui c'était. Et ils ont portraitisé Elizabeth d'après le cadavre.
Ouais, et bon, après, pour la petite anecdote aussi, Moi, par exemple, les cartes postales qu'on voit dans le bouquin, enfin l'immense majorité des cartes postales qu'on voit dans le bouquin et notamment dans les pages de garde, c'est ma collection personnelle. Donc, ça fait partie intégrante, même si ça se ressent pas au travers de mes autres œuvres comme Mutafukaz ou Doggy Bags. Cette esthétique années 40, c'est quelque chose, et surtout Californie des années 40, ça fait partie intégrante de mon ADN. Donc, à la fois, quand on dit qu'on n'était pas dans notre zone de confort, c'est vrai. Néanmoins, moi, j'étais pas trop éloigné d'une partie de l'esthétique que j'apprécie, quoi.
Et pour revenir aux publicités, moi, j'ai mis un petit temps parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les publicités. Et j'ai cru au début que c'était des fausses publicités, que vous aviez redessiné le visage d'Elisabeth dans toutes les pubs. Bon, après, quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que non, quoi. Mais je me suis dit que vous aviez engagé un petit jeu avec le lecteur, comme ça, en rajoutant des Elizabeth Short un peu partout.
Ouais, alors c'était pas. Alors, effectivement, de temps en temps, il y a même des petits comic strips qu'on a reproduits de personnages qui ressemblaient à Elizabeth Short. On a dû faire une sélection. Alors, ça, c'est un travail que j'avais fait aussi avec Yuck et Tony, qui ont bossé justement sur ces petites pages de pub. Mais on se rendait compte aussi que les petits comic strips de l'époque, etc., ils étaient très empreints d'une imagerie de violence faite sur les femmes. Beaucoup de kidnapping de femmes, beaucoup de femmes qui torturaient d'autres femmes. Il y avait ce côté-là qui était aussi intéressant à remettre dans le contexte, je trouve. Et puis aussi, on s'est amusé à mettre des publicités en rapport avec l'histoire, que ce soit au travers des lieux qu'elle a fréquentés, mais aussi qui pouvaient avoir du sens par rapport à la fois à l'imagerie et malheureusement à son destin tragique.
On a presque fini, je voulais juste finir sur l'enquête, parce que donc Elizabeth Short est retrouvée assassinée, atrocement mutilée, coupée en deux, torturée, enfin c'est une abomination. À la fin, il y a un petit cahier sur les suspects potentiels. Quand on lit l'album en entier, on a tous, je pense, une petite idée sur qui a pu être l'auteur de tout ça. Est-ce que vous pensez avoir découvert l'auteur du crime ?
Découvert, non. Disons que nous on n'est pas parti. La question du tueur, on l'a mise de côté assez vite. On voulait vraiment se concentrer sur Elizabeth Short et on voulait surtout avoir une piste de tueur en faisant la BD, ça aurait été contre-productif dans le sens où on pense qu'on aurait peut-être biaisé la narration. Néanmoins, ensuite, en faisant la liste de tous les tueurs possibles, toutes les hypothèses les plus crédibles, bien qu'il y en ait une dedans qui soit la moins crédible, celle pour moi de George Odell, l'idée c'était de faire une espèce, un peu comme pour l'enquête, de tout mettre sur la table et dire bon bah voilà, à ce jour, voilà les assassins les plus crédibles. Et nous, à défaut d'avoir découvert qui que ce soit, parce que à chaque fois on reprend soit les procès-verbaux, encore une fois l'enquête de la police, ou en l'occurrence une enquête d'un journaliste qui s'appelle Larry Arnish, qui selon nous est probablement la l'hypothèse la plus crédible, et on l'expose et on rajoute les éléments que nous on a trouvé de notre côté pour boucler la boucle, j'ai envie de dire.
Mais Florent, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, pour compléter ce que dit Run et pour souligner un élément, c'est vrai que par exemple, Run, quand il m'a envoyé le scénario, clairement, il me disait pas lui, je pense que c'est le tueur, ou il m'a toujours demandé qu'est-ce que t'en penses. Il m'a toujours exposé des éléments, la théorie de Larry Arnish, et à chaque fois, c'est qu'est-ce que t'en penses, Florent ? Et je pense que c'est important, effectivement, qu'on ait fait cette bande dessinée à chaque fois en représentant des hommes qui sont ce qu'ils sont. Et qu'on soit pas dans le jugement et dans l'a priori pour représenter des tueurs, en fait, parce que c'est une société qui est d'après-guerre, qui est compliquée. Les mecs qui reviennent avec des PTSD, on sait pas exactement ce que c'est à l'époque encore. L'image romantique, c'est ce marin qui Mendoza qui embrasse l'infirmière Greta Zimmer, et tout le monde dit ah c'est extrêmement romantique, alors qu'en fait c'est une agression. C'est ce qu'on a voulu représenter là, une époque des hommes, et on n'a pas voulu dire ok c'est lui le tueur, je vais lui faire un regard de psychopathe, et à chaque fois qu'il va l'approcher, on va sentir en fait il désire la couper en deux et lui faire le sourire de Glasgow, quoi. Non, il fallait laisser justement tout ça au regard du lecteur, qu'il puisse se faire son avis sans que nous on soit jugeant et qu'on donne un avis. Et c'est, en fait, on a appliqué ce qu'on a aux hommes qui ont entouré Elizabeth Short. On leur a appliqué la même chose qu'à elle, c'est-à-dire qu'on a essayé de pas juger et de juste montrer en fonction des éléments qui nous ont été racontés et en fonction de ce qu'on peut comprendre de la psychologie, la psyché de chacun. Et des intérêts de chacun, on a essayé de représenter tout ça dans cette bande dessinée.
Ouais, puis à ce jour, on n'en sait rien. L'affaire est toujours un cold case, c'est toujours une affaire non élucidée. Ça fait 75 ans que c'est non élucidé. Donc nous, on peut avoir une piste privilégiée, mais en vérité, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est un mec qui apparaît même pas dans le dossier, quoi.
Je vous remercie tous les deux de ce moment passé avec moi pour parler de l'histoire d'Elizabeth Short, surtout de l'histoire tel que vous l'avez vu, parce que vous partez d'un crime et ce n'est ni un polar, ni un thriller, mais c'est à la fois le portrait d'une jeune femme, le portrait d'une ville et le portrait d'une société, comme le disait Florent à la fin. Je rappelle toutes les infos importantes, c'est donc Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, par Ron et Florent Maudoux. C'est publié par le label 619, c'est au prix, je regarde le prix, je suis étonné du prix si bas, 19,90, et il y a 100 pages d'excellente littérature et de sublimes bandes dessinées. Merci beaucoup à tous les deux, et je vous dis à bientôt.
Alors juste un petit détail, c'est au label 619, publié par Rue de Sèvres.
Par Rue de Sèvres, exact. Donc, deux bonnes maisons d'édition.
Ah oui. Les meilleurs.
Merci beaucoup.
Merci.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.